cinéma.
Ciné Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Ciné Club Actu. Nous sommes Carla,
Camille,
Maxime.
Et nous allons vous présenter les 5 sorties du mois de janvier, cinéma et séries. Mais tout d'abord, on commence avec nos deux invités.
Alors, Elina,
Taïna.
Donc du coup, on va commencer par vous poser des petites questions. Donc, Elina, alors, c'est quoi ton rapport au cinéma ?
Alors, je vais très rarement au cinéma. C'était toujours quelque chose d'un peu exceptionnel pour moi d'y aller. Mais du coup, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, vu que c'était un peu exceptionnel.
Quel est ton film préféré ?
Alors, mon film préféré, je pense que c'est Burlesque. C'est un film avec Christina Aguilera et Cher, entre autres. Et
ça parle de quoi ?
Alors, de base, c'est une serveuse qui, son rêve, c'est vraiment d'être une danseuse burlesque. Donc, elle arrive dans un cabaret, elle va être serveuse, et petit à petit, elle va devenir l'une des danseuses et la danseuse principale. Et comme c'est Christina Aguilera qui a le rôle, elle chante également. Et voilà, il y a une histoire d'amour, tout ça, bref.
Mais du coup, il faut que vous alliez voir aussi. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué quand t'étais petite et tout ça ? Est-ce que tu te rappelles du premier film que t'es allée voir ?
Je me rappelle pas forcément du premier film que je suis allée voir ou que j'ai vu. Par contre, je me souviens qu'un film qui m'a beaucoup marqué, c'était The Mask avec Jim Carrey. J'étais vraiment toute petite et les effets spéciaux, tout ça, ça m'a beaucoup marqué.
D'accord.
Bah, Taïna, je vais te poser les mêmes questions. Donc, qu'est-ce que c'est ton rapport au cinéma ?
Mais moi, je vais très peu souvent au cinéma. Je regarde plus la télé à la maison. Je chill plus avec mes parents, mais je sors peu, en fait, au cinéma.
Et quel est ton film préféré ?
Je dirais que mon film préféré, c'est Uncharted. Donc, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était avec des amis, on est allés au cinéma. En fait, ça raconte l'histoire de deux chasseurs de trésors qui, en fait, souhaitent découvrir un trésor qui a été caché par Magellan. Et le but, donc, c'est de retrouver et d'éviter que une famille, donc la famille Moncada, une famille espagnole, mette la main dessus. Et donc, ils vont parcourir tout le globe et vivre une aventure assez extraordinaire.
D'accord. Et quel est le film qui t'a marqué quand t'étais petite ou même pas un film qui t'a marqué ?
Je dirais qu'un film qui m'a vraiment marqué, c'est Le Grinch. C'est un personnage assez particulier. Il était tout vert, donc forcément, ça marque les esprits. Et surtout, les personnages et je dirais aussi les décors. C'est quand même assez joli à voir comme film et oui, je le conseille à tout le monde.
C'est un film à voir à Noël, surtout.
Oui, sur...
Regardez Le Grinch à Noël.
On enchaîne sur les sorties films de ce mois-ci.
Et alors, la sortie française qui a marqué ce mois de janvier, c'est Tirailleurs, qui est sorti le 4 janvier. Et donc, alors, ça parle de deux hommes qui viennent des colonies françaises, qui ont été forcés de s'enrôler dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Et ça se passe en 1917. Et alors, le personnage principal, il s'appelle Bakary Diallo et il s'est engagé pour retrouver son fils, Tierno, qui a 17 ans et qui a été recruté de force. Et alors, ils sont envoyés sur le front tous les deux et ils vont devoir affronter la guerre ensemble. Et alors, ils sont l'officier, il va envoyer absolument Tierno en première ligne. Et lui, il le veut pour s'affranchir et apprendre à devenir un homme. Mais Bakary, il va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Et donc au casting, on a Alassane Dion qui est dans le rôle de Tierno. Et Omar Sy qui joue Bakary. Et donc Omar Sy, il est connu pour plusieurs films comme par exemple Intouchables. Mais il est aussi connu pour la série Lupin. Et le réalisateur, c'est Mathieu Va-de-Pied. Qui avait justement réalisé Intouchables. Et alors, pour l'instant, les critiques, elles sont plutôt mitigées. Certains disent que c'est un chef-d'œuvre, tandis que d'autres trouvent que c'était un petit peu trop lent. Mais bon, pour faire votre propre avis, il faut que vous alliez le voir.
Bah, ça fait plaisir de voir des films français comme ça, surtout qu'Omar Sy, c'est un grand acteur français, qui a un des rares qui a percé aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Et surtout...
L'un des rares qui... Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Les très bons qui sont connus.
Oui. Et... J'ai vu la première semaine, vu qu'il est sorti le 4 janvier, 500 000 entrées, ce qui est quand même un sacré score pour un film français. Ça fait plaisir de voir le cinéma français rayonner comme ça dans son pays. Moi, j'allais vous parler de Babylone, qui sort le 18 janvier. C'est réalisé par le réalisateur donc, franco-américain Damien Chazelle, qui revient donc avec Babylone, son nouveau film sur le Hollywood des années 1920, alors qu'il est en pleine transition entre le muet et le sonore. Le film suit le jeune Manny Torres qui commence sa carrière dans l'industrie cinématographique comme assistant. Alors, c'est avec donc, le jeune acteur Diego Calva qui joue Manny Torres, mais surtout les plus connus Brad Pitt et Margot Robbie. Et surtout Damien Chazelle. Alors, qui est Damien Chazelle? C'est le réalisateur des films acclamés Whiplash, First Man, mais surtout La La Land, c'est son film le plus connu. Et ça faisait 4 ans qu'il préparait ce projet. Il y a aussi Tobey Maguire dans le film. Le film dure 3h09. Alors, je sais que ça peut en rebuter certains, mais personnellement, au moment où on enregistre le podcast, je l'ai vu hier soir. Et c'est vraiment un film exceptionnel. Une fois que vous avez vu les 10 premières minutes, vous êtes plongé dedans et vous ne voyez plus la durée du film. Vous ne voyez plus le temps du film passer. Les acteurs sont exceptionnels. Les images sont incroyables, ça va vous rester dans la tête des mois. Et surtout, la musique donc, de Justin Hurwitz, qui est le compositeur habituel des films de Damien Chazelle, qui a eu un Golden Globe d'ailleurs, il y a quelques jours, est vraiment exceptionnel. Il a mêlé du jazz avec des influences de Hollywood des années 20, la musique. C'est une musique exceptionnelle. Et le film est exceptionnel, c'est un hommage au cinéma d'aujourd'hui, d'hier, même de demain. Et je vous encourage tout le monde à aller voir. Vous avez vu des films de Damien Chazelle, vous ?
Non.
Peut-être, La La Land. Je ne sais pas trop.
J'ai pas regardé La La
Land. Moi, c'est ça ? Oui, La La Land. Moi, j'ai trouvé populaire. Bon, justement, aussi. Par la longueur.
Moi, j'ai pas regardé La La Land, donc...
C'est pas grave.
Ce mois-ci aussi, on peut retrouver pas mal de films d'horreur en salle, comme par exemple Terrifier 2, réalisé par Damien Léon et qui est sorti le 11 janvier dernier. Ce film sort 6 ans après le premier Terrifier et il raconte l'histoire de Sienna Shaw, qui après que son frère ait développé une fascination malsaine pour Art le clown, croise la route de ce clown tueur. Donc le film s'est fait repérer dans la presse après plusieurs cas de vomissement et d'évanouissement par certains spectateurs américains. Donc, âme sensible s'abstenir. Il y a aussi L'Emprise du démon, réalisé par Oliver Park, et également sorti le 11 janvier dernier. Vous avez sans doute pu voir la bande-annonce sur certains réseaux sociaux. Ce film est plus sur du paranormal, ça traite d'un jeune couple, Claire et Arthur, qui s'installent dans l'entreprise de pompes funèbres du père d'Arthur, après l'arrivée d'une mystérieuse dépouille contenant une entité surnaturelle nommée Abizou. Celle-ci essaie de prendre possession de leur futur enfant. Si vous voulez avoir des frissons pendant 1h30, je vous invite à aller voir ce film.
Vous aimez bien le cinéma d'horreur, vous ?
Oui, moi j'adore ça.
Je sais que
ça.
Certains spectateurs détestent, il y en a qui adorent.
Moi j'adore ça. Je suis allée voir Smile en novembre, je crois. Mm-hmm. Bon, ça m'a un peu traumatisée, c'est vrai. Je suis difficilement traumatisable en film d'horreur, mais celui-là, il m'a vraiment marqué et pas bien.
Bon sens.
Ouais.
Moi je m'endors devant les films d'horreur.
Ah d'accord. Ah,
oui. Ça n'entend pas que ça me berce, mais ça ne m'intéresse pas.
Moi ça dépend quoi vraiment.
Ah oui.
Ben en vrai, j'ai jamais trop regardé non plus, mais il y en a certains, ça passait. Mais par exemple, ben, on en avait parlé le mois dernier, Midsommar.
Ah oui.
J'ai pas pu finir. Horrible.
C'est un film d'horreur assez reconnu, Midsommar, oui.
Mais c'est très particulier parce qu'en fait, c'est vraiment psychologique plus que ça fait peur, quoi. Enfin, Je sais pas si vous connaissez.
Absolument pas.
Il y a Florence Pugh dedans.
Sûrement.
Non.
Yelena. Yelena.
Ah oui. Ok.
Amy March.
Peut-être.
On va passer à deux séries qui sortent en janvier. La première, c'est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui va sortir le 23 janvier sur Canal+. Et c'est la première série écrite et réalisée par Xavier Dolan. Alors, qui c'est Xavier Dolan ? C'est un réalisateur canadien de seulement 33 ans, qui a déjà une carrière exceptionnelle depuis 14 ans maintenant, avec plusieurs prix au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise. Il a eu aussi le César du meilleur réalisateur en 2017. Ses films traitent souvent de thématiques LGBT. Il était d'ailleurs assez précurseur dans ce thème-là au cinéma. Il aime aussi beaucoup les déchirements familiaux, comme dans la série, donc la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. La série se centre autour de Mireille Larouche, de son frère Jules et de leur meilleur ami Laurier. Fortement unis, les trois personnages sont divisés par un événement traumatique qui se déroule dans la chambre à coucher de Laurier durant une nuit d'octobre 1991. Trois décennies plus tard, Mireille, qui s'est exilée à Montréal, revient dans sa ville natale suite au décès de sa propre mère. Et donc, voilà ce que ça va raconter. Ces événements ressassent le passé trouble des Larouche que les spectateurs reconstituent progressivement à travers l'évolution des protagonistes. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Michel-Marc Bouchard. La musique est co-composée par Hans Zimmer. Et c'est aussi peut-être le dernier projet de Xavier Dolan avant un moment, car il a récemment exprimé une fatigue sur l'industrie du cinéma. Et il citait comme exemple qu'il était mieux payé à réaliser une pub d'une minute pour la marque de luxe que réaliser un film d'auteur comme il en fait depuis une dizaine d'années. Donc raison de plus pour regarder la série, ce sont 5 épisodes d'une heure, disponibles le 23 janvier sur MyCanal.
D'accord.
Une autre série aussi, qui sort le 15 janvier sur Prime Video, qui est une série HBO, The Last of Us. C'est la dernière grosse sortie du mois qu'on va traiter. Cette fois-ci, c'est HBO qui s'attaque à un des plus grands jeux vidéo narratifs de tous les temps, The Last of Us. La série raconte la vie de Joel, incarné par Pedro Pascal, Ellie, incarné par Bella Ramsey, et Tess, incarné par Anna Torv. Un trio lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent, qui sont forcés d'endurer des circonstances brutales et des tueurs impitoyables lors d'un périple à travers une Amérique détruite. Et oui, en effet, l'histoire de The Last of Us, jeu sorti en 2013, développé par le studio Naughty Dog, se déroule dans un monde marqué par l'apparition d'un virus meurtrier qui a rendu la vie, bien sûr, très difficile. Et la partie 2 du jeu est sortie en 2020. Mais la saison 1 de The Last of Us ne l'adaptera pas encore. Donc elle est écrite par Craig Mazin, qui avait été le scénariste de la série Tchernobyl il y a 3 ans, et Neil Druckmann, qui est réalisateur et scénariste des deux jeux originels. Donc la série réunit donc Pedro Pascal, l'interprète du Mandalorian chez Star Wars, Bella Ramsey vu chez Game of Thrones. Et donc la série est diffusée sur Prime Video en France. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler de The Last of Us avant cette série ?
Moi j'ai joué à la partie 2. J'ai pas joué à la partie 1, mais à la partie 2. Ouais.
Et les autres ?
J'ai entendu parler du jeu vidéo, j'ai appris pendant qu'on préparait l'émission que...
J'encourage vraiment tout le monde à regarder, au moins à regarder un let's play de The Last of Us ou la série du coup, parce que c'est vraiment un jeu vidéo qui est exceptionnel.
Un très bon jeu, franchement.
Oui, c'est incroyable. On va passer sur la partie actualité.
Donc pour revenir sur HBO, donc l'entreprise a dévoilé quelques images de ses prochaines créations qui arrivent tout en 2023. Donc la saison 4 de Barry, la prochaine saison de True Detective, intitulée Night Country, la saison 4 de Succession, et la saison 2 de Our Flag Means Death. Alors toutes ces séries sont acclamées par la série, donc ça promet une belle année pour la chaîne américaine, mais on a failli ne pas en profiter en France, parce que originellement les séries HBO étaient diffusées sur OCS, qui sont une plateforme de streaming, et aussi 4 chaînes. Française. Et en fait, ils avaient un contrat qui s'est terminé le 31 décembre 2022. Donc du coup, elle n'était plus celle qui était diffusée sur OCS avant 2020. Elle n'était plus disponible en France. Et elle n'était plus disponible du coup nulle part. Puisque elles le sont toujours pas d'ailleurs. Puisque ça arrive sur Prime Video en 2023. Elles vont, à la dernière minute, 2 semaines plus tard... Prime Video a racheté HBO, enfin les droits. Oui, ils ont fait le contrat.
Ils ont racheté les droits, oui.
Et donc, les séries HBO, ça concerne un grand nombre de grandes séries, Donc, pour n'en citer qu'une, la plus connue, Game of Thrones. Et donc, du coup, ce sera Prime Video qui va reprendre à partir de mars. Mais il va falloir payer le... Il va falloir payer un pass pour pouvoir en profiter, le pass Warner, dont le prix n'a pas été déterminé. Bon, de toute façon, Prime Video, c'est souvent ça, il faut payer en plus.
Tout à fait. C'est quand même un peu de l'arnaque, je trouve.
Bah, Prime Video, si t'as envie de regarder un film qu'il y a sur la plateforme, la plupart du temps, il faut le louer, donc...
Mais je blâme même pas Prime Video, parce qu'à mon avis, c'est les propriétaires d'HBO qui ont voulu que ce soit payant. Mais je trouve... ça aurait été plus facile de mettre les séries directement sur Prime Video. Ben là, oui. Il faut repayer un pass en plus. Ça encourage juste les gens à pirater les séries, en fait, c'est ça le problème.
Oui. Puis OCS, du coup,
Bah, OCS,
sans toutes ces séries, il en reste plus grand-chose. Ben, il reste les séries de Hulu.
Oui.
Et les séries un peu, les séries et films français un peu.
Oui.
Mais c'est important de dire surtout qu'OCS a été racheté par Canal+.
Oui.
Il y a quelques jours. Oui, parce que OCS. Est endetté de plusieurs millions, en fait.
C'est sûr. Parce
que... et donc, Canal+, a profité pour acheter OCS. Et donc, sur OCS, ben là, vous avez les séries HBO qui sont sorties depuis 2020. Donc, par exemple, House of the Dragon, c'est encore sur OCS, mais les futures séries HBO ne sortiront plus sur OCS, elles sortiront donc sur ce pass Warner. Donc, on ne connaît même pas le prix. Donc, il faudra s'abonner en plus de Prime Video.
Donc, tout le monde va le pirater.
Ouais.
Oui. Bah...
On va pas s'attendre à autre chose. Sauf que du coup, ça va faire moins d'argent pour les, enfin, genre, les gens qui ont produit là,
c'est, bah, la série. C'est ça qui est dommage.
Alors, bah oui, c'est acteurs
et tout. C'est juste important de préciser que The Last of Us est disponible gratuitement sur Prime Video, par contre. Vu que le pass Warner sortira en mars et que la série sort en janvier, ils ont décidé de la faire sortir gratuitement sur Prime Video.
D'accord.
Mais bon. On a des nouvelles de Avatar, la voie de l'eau, qu'on vous parlait le mois dernier. Le film a engrangé 1,7 milliard de dollars de recettes en faisant le 10e plus gros succès de l'histoire du cinéma et plus gros succès de 2022 en France et à l'international. En France d'ailleurs, le film a été vu 8,6 millions de fois dans les cinémas, donc à la mi-janvier, ça a le temps de grandir encore. Le premier film avait fait 14 millions d'entrées. Donc une réussite totale, et James Cameron a annoncé que les 4 suites qu'il prépare vont donc bien sortir en 2024, 2026 et 2028. Et on a d'ailleurs eu des nouvelles informations sur celle-ci. Le réalisateur aurait fini une première version de Avatar 3 qui ferait 9 heures en tout. Et donc il voudrait faire tous les effets spéciaux sur la version de 9 heures pour ensuite couper le film et en faire une version plus digeste.
Oui, parce que 9 heures...
Oui, déjà le dernier faisait 3h12.
C'est une journée en fait.
T'arrives à 8h le matin, tu sors le soir. Ah, la journée qui...
Déjà la nuit.
Bon bah...
Bonne nuit, hein.
À mon avis, ça durera pas plus de 4 heures parce que même Cameron sait que 9 heures, personne ne va aller le voir.
Bah, bien sûr, 4 heures.
Si, il y a déjà, mais ils le sortiront en deux parties s'il fait 9 heures.
Oui,
mais 4 heures déjà.
Oui, il y a des films qui sont sortis à 4 heures.
Oui, mais ça fait déjà beaucoup, quoi.
Ah oui, ça fait beaucoup, oui. Mais... Et il a aussi déclaré qu'on va rencontrer le peuple des cendres de Pandora, ce qui semble logique après le peuple de l'eau de Avatar 2, donc assez hâte de voir ça, ça va créer des visuels assez intéressants. Il a aussi déclaré que nous verrons pour la première fois dans la franchise la planète Terre d'Avatar 5, et que Neytiri, donc le personnage principal, s'y rendra. Je trouve ça assez intéressant de voir la Terre dans Avatar quand même, parce que c'est une franchise qui nous dépayse tellement que de voir la Terre...
Mais bon, Avatar 5, c'est-à-dire c'est en 2028, quoi.
Tout à fait.
Ça va être long.
Oui, mais pour patienter, on a quand même le 3 et le 4.
Oui. Sachant qu'on a attendu quand même plus de 10 ans pour le deuxième
film. Pour le 2, c'est vrai.
Donc oui. Finalement, ça va aller vite.
Mais d'ailleurs, on va demander à nos invités, est-ce que vous aimez Avatar? On avait posé ça à Lucas la dernière fois.
Oh oui.
Bien évidemment.
Moi je l'ai adoré. Autant le premier, je suis allée voir le deuxième, je vais le revoir avec mon père. Mais je l'ai trouvé exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'on s'ennuie peut-être un peu sur le deuxième. Parce qu'on avait déjà le décor, on avait déjà tout découvert. Enfin, je pensais, et en fait on redécouvre, sans spoiler. On n'est pas du tout ennuyé, on redécouvre. Franchement, on passe un super moment. Et on va surtout pas les 3 heures passer. Ça c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué.
Bah, disons que moi, j'ai pas encore totalement terminé le premier. Donc déjà, il va falloir que je le finisse. Et après, oui, j'envisage d'aller voir le 2. J'ai eu quand même pas mal de bons retours. Ouais. Donc je vais prévoir la séance.
Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que 3h12, pour n'importe quel film, on aurait fait une remarque comme quoi c'est trop long, on n'a pas le temps et tout. Et pourtant, Avatar, ça va dépasser les 10 millions d'entrées, ça va dépasser les 2 milliards au box-office international. Je trouve ça vraiment intéressant comment cette franchise, elle arrive à amasser les foules comme ça.
Le premier, il a été d'un premier au box-office pendant
des années. Mais c'est toujours le premier. Même devant Avengers Endgame, alors que c'était le plus gros blockbuster possible, imaginable. Quoi.
Ah, je croyais qu'il l'avait dépassé à un moment.
Mais Avatar l'a redépassé à cause des ressorties, tout ça.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment impressionnant.
Donc, Taylor Swift préparerait son premier film aussi. Effectivement, après avoir déjà réalisé un court-métrage « All Too Well », The Short Film, qui lui a valu le prix du clip de l'année au VMA 2022, la chanteuse aurait pour projet de réaliser son premier film. Pour l'instant, aucune autre information n'a été partagée au sujet de ce projet.
Vous avez un avis ou...
C'est Taylor Swift quand même, c'est sûr que ça va marcher quoi. C'est Taylor
Swift. Il n'y a tellement aucune information que c'est compliqué.
C'est ça. Déjà pour trouver des informations pour l'émission, ça a été compliqué. Alors,
après, je ne la vois pas se rater parce qu'elle ne peut pas rater un film. En fait.
Déjà, son court-métrage, il y avait pas mal de bons acteurs. Il y avait Dylan O'Brien et Sadie Sink. Ouais, donc,
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un caméo, comme on dit, de Sean Levy, qui est réalisateur de plusieurs épisodes de Stranger Things, de plein de films avec Ryan Reynolds, qui va réaliser Deadpool 3, d'ailleurs. Je trouve ça intéressant. Parce que, voilà.
Et puisqu'on parle de Stranger Things, donc un spin-off de Stranger Things, il serait en préparation. Ça avait été annoncé avant la saison 4. Et ce sera une série d'animation qui s'intitulera Stranger Things Tokyo. Et donc la série, elle suivrait des frères jumeaux amateurs de jeux vidéo vivant dans la banlieue de Tokyo dans les années 1980. Et la série va avoir le droit à une cinquième et dernière saison. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le synopsis ni sur la date de sortie pour l'instant. On sait qu'ils ont déjà bien entamé l'écriture. Et que le tournage devrait commencer en mai. Et elle devrait reprendre au moment où s'est arrêtée la saison 4, mais il y aurait un saut dans le temps. Et alors, normalement, la saison 4, l'attente devrait être moins longue que pour la saison 4. Ça a quand même duré 3 ans. Et la plupart des personnages seront de retour, même s'il y en a un qui manque à l'appel. Eddie Munson, et ça déçoit beaucoup les fans qui prévoient déjà de boycotter s'il n'y est pas.
De boycotter carrément
ça. Ouais, ils ont dit que normalement il y serait pour des flashbacks et tout, mais il a confirmé, puisqu'il y avait des théories folles sur le fait qu'il ne pouvait pas être mort et tout.
Ouais.
Ils sont dans la bulle, les fans, toujours.
Ouais, non, mais fin, surtout que fin, ce serait un personnage qui serait depuis la première saison, tu peux te dire, oui, on est attaché, mais là il est vraiment arrivé dans la saison 4.
Il a pop dans la saison 4, il a fait bonjour.
Et c'est surtout que ce que reprochent beaucoup de gens, c'est que comme pour Mercredi Adams, on croiserait un mec comme Eddie dans un autre lycée, tout le monde se foutrait de sa gueule.
D'ailleurs, Mercredi Adams qui a été renouvelé dans une saison 2,
oui.
Petite actuée
oui.
Comme ça.
Ah oui,
oui.
Ouais. La saison 1 est sortie le mois dernier et
mais c'est toujours ça dans les top, je crois. Mais c'est toujours dans les top. Je crois que ce week-end c'était encore top 3-4, alors que ça fait quand même...
Il y a eu un gros succès sur Netflix.
Oui, sur Netflix. Et pareil, elle a un côté un peu gothique. Elle serait, tout le monde l'adore Mercredi pour ça. Tout le monde copie son style. Ça a arrêté il y a 2 mois dans un lycée. Quelqu'un se baladait comme ça, tout le monde se foutait de sa gueule.
Ah oui, on te répondrait que c'est la magie du cinéma. Oui, des
c'est
séries, ça. Voilà.
C'est surtout le fait de prendre des acteurs qui sont beaux.
Voilà. La première bande-annonce de The Flash sortirait en février pour le Super Bowl. Le teaser du premier long-métrage consacré à Flash a donc été réalisé par Andrés Muschietti. Je ne sais pas si ça se prononce comme
Andy
ça.
Andy Muschietti, je crois.
Ce n'est pas grave. Il mettra en scène Barry Allen qui va voyager dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, sauf qu'il va causer des changements involontaires qui auront pour conséquence la création d'un multivers. C'est bizarre, ça me rappelle drôlement Spider-Man No Way Home. Donc, cette année, pas mal de films de la licence DC Comics vont sortir, ce qui fait assez plaisir, d'autant que l'année dernière, on en a eu droit qu'à un seul.
Donc c'est plutôt pas
en
mal.
En plus, c'était Black Adam, donc c'était pas.
Bah, il y avait Batman réussite. Aussi.
Oui, mais c'est pas dans l'univers DC. C'est DC, mais
ouais.
C'est pas l'univers partagé.
Oui, c'est pas l'univers. Ouais.
D'ailleurs, il y a eu beaucoup de changements chez DC. Là. James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a pris la tête du comité créatif de DC. Et du coup, là, ils ont créé un plan pour les 10 prochaines années de DC, de projets, de séries, de films, qui vont dévoiler à partir de janvier, justement. J'ai assez hâte de voir ça. Ils ont déjà annoncé que Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman, finalement.
Oui, bon, ça.
Et James Gunn a annoncé qu'il allait écrire un nouveau film Superman.
James Gunn en écrire un Superman.
Oui, moi je lui fais totalement confiance.
Moi aussi, mais c'est bizarre.
Oui, c'est vrai que on voit mal son style se mélanger avec Superman, mais bon.
Lui c'est plutôt Gardien de la Galaxie, quoi. C'est plutôt Marvel. Là, il s'lance dans du DC.
Ah, il a déjà réalisé The Suicide Squad chez DC et Peacemaker, la série aussi, qui était vraiment des super projets. Donc, j'espère qu'il aura le même niveau de qualité maintenant qu'il est le chef.
Ouais, c'est ça.
On a eu la deuxième bande-annonce de Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan, un réalisateur à la filmographie bien chargée, puisque composé de Inception, la trilogie Batman, Interstellar, Dunkerque et Tenet en 2020, son dernier film. Et donc son prochain film, Oppenheimer, sortira le 19 juillet 2023 dans nos salles, et ça sera un biopic de Julius Robert Oppenheimer, physicien américain du XXe siècle, ayant grandement participé à l'élaboration de la bombe atomique américaine. Le film serait structuré en deux parties, une en couleur et une en noir et blanc. Celle en couleur serait avant l'explosion d'Hiroshima, et celle en noir et blanc serait après cette explosion. Et oui, car en effet, Oppenheimer, dans la vraie vie, donc, a finalement regretté son invention et a même été jugé dans les années 50 pour des liens lointains avec le communisme, et a été humilié publiquement par ce procès, donc on verra toute sa vie dans le film de Christopher Nolan. Donc Cillian Murphy, vu dans Peaky Blinders par exemple, va incarner Oppenheimer. On verra aussi Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Rami Malek et Florence Pugh qui sont au casting. Donc rendez-vous à l'été 2023 dans les salles.
Ça promet un bon film.
Ah oui.
Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, alors aujourd'hui on est le 16 janvier, la sortie mercredi est sortie vers novembre par là.
Oui.
Elle est toujours troisième.
Ah oui.
Troisième du top 10 des séries les plus regardées en France.
Ah oui. Bon,
voilà, c'était une petite parenthèse.
C'est à Camille, il me semble.
Oui.
Ah oui, alors Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name et Bones and All, a deux projets qui vont arriver. Donc tout d'abord, il compte adapter le livre Queer de William S. Burroughs. Je sais pas comment. Avec Daniel Craig dans le rôle principal. Donc Daniel Craig, il a joué James Bond. Et alors l'histoire, c'est le héros, il s'appelle Lee. Et il raconte son histoire. Donc il vit au Mexique dans les années 1950. Et il rencontre quelqu'un qui s'appelle Allerton dans un bar gay. Il refuse, qui refait ses avances. Mais les deux amis décident de se lancer dans une quête pour une plante hallucinogène qui pourrait leur donner des pouvoirs télépathiques. Et aussi... d'après Deadline, il aurait commencé à travailler sur un biopic d'Audrey Hepburn avec Rooney Mara pour la plateforme d'Apple. Cependant, il semblerait que l'équipe soit encore à la recherche d'un script. Le scénariste ?
Oui.
Le réalisateur est aussi aux commandes d'un drame sur le monde du tennis, Challenger, avec Zendaya, qui devrait sortir d'ici l'automne prochain.
Tout à fait. Luca Guadagnino, vraiment, c'est un bourreau de travail, puisque le biopic d'Audrey Hepburn, donc une grande actrice des années 50, il me semble, des années 50 ou 60,
je crois, oui.
Il va commencer à tourner en 2023, alors qu'il a déjà Challengers qui va sortir en fin d'année 2023. Il a aussi donc Queer qui va peut-être tourner cette année, on ne sait pas vraiment.
Il enchaîne pas mal de projets, ouais.
Oui, oui, vous imaginez.
Il est connu pour faire deux projets en même temps à chaque fois.
Oui, 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 mais c'est vraiment un bourreau de travail, c'est impressionnant. Alors qu'il a sorti un film déjà en novembre dernier déjà. Mm. Et pourtant la qualité est toujours au rendez-vous, donc tant qu'elle est là, on s'en plaint pas.
S'il travaille comme ça, s'il travaille mieux en faisant ça, c'est que bénéf pour nous après.
Exactement, exactement.
Et dernière actu, Steven Moffat a déclaré rester toujours motivé à l'idée de faire la saison 5 de Sherlock. Donc Steven Moffat, il est connu aussi pour avoir réalisé les Doctor Who, si je me trompe
de
pas.
De la saison 5 à 10.
Ouais, c'est ça. Donc, il attendrait qu'une seule chose, que Benedict Cumberbatch et Martin Freeman soient partants pour que le créateur de la série se mette au travail. 5 ans après la diffusion du premier épisode, les fans espèrent toujours qu'une autre saison voit le jour. Mais étant donné que les deux acteurs ont intégré l'écurie Marvel, ces deux-là sont très occupés à faire à suivre.
Vous avez vu la série Sherlock ?
Oui.
Non.
Oh, deux fois.
Sherlock,
beaucoup trop de fois.
C'est vraiment une série exceptionnelle, Sherlock. Si vous avez une série à regarder, je pense regarder celle-là. Parce que... Ok, les épisodes font 1h30, mais il n'y en a que 3 par saison.
Oui, il y a 3 par saison.
Il y a combien de saisons ?
Il y en a 4.
Il y en a 4.
Oh, ça va.
Ça va, c'est plutôt
franchement,
rapide.
Franchement, c'est plutôt pas mal.
Les épisodes sont exceptionnels, c'est
oui.
vraiment... Les acteurs, donc Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, ils sont... C'est vraiment Sherlock et Watson incarnés. Quoi.
Ils sont tellement compatibles, ces deux.
C'est ça, ils ont une alchimie incroyable.
Oui.
Les scripts sont à chaque fois incroyables. C'est...
Oui.
On croit que ça va partir dans une direction, ça part dans une autre, puis ça repart dans une autre. Et surtout, vous verrez quand vous verrez un épisode, mais le montage est exceptionnel parce que parfois vous avez des... Je sais pas comment expliquer. Les épisodes sont montés d'une manière bizarre.
Oui.
Et ce qui fait que c'est au final très addictif.
Disons que tu vois le monde comme nous on voit. Et puis tu vois comment fonctionne Sherlock aussi.
Oui.
Tu as la vision de John et de Sherlock, donc c'est plutôt pas mal.
C'est aussi un Sherlock moderne au XXIe siècle, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à la base c'est une grande figure de la littérature britannique du XIXe,
oui.
Et au final ils l'ont transformé, Stephen Moffat et son compère Mark Gatiss du coup, l'ont transformé en héros du petit écran britannique du XXIe siècle. C'est vraiment réussi, il faut absolument regarder. Voilà. C'est tout pour ce mois-ci,
oui.
Ben oui. Eh bien, c'est tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On
merci
se dit.
Merci.
Oui, c'est vrai. Merci à vous. Et on se dit rendez-vous en février pour le prochain épisode et les sorties les plus attendues de la fin d'année. Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud. Oui, bah oui. Désolée, de début d'année. Je suis un peu fatiguée. Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud et le site internet de Radio Campus Pau. Restez à l'écoute de Radio Campus Pau sur les réseaux sociaux pour être informé de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À dans un mois.
Au revoir.
Au revoir.